Bonjour, vous découvrez aujourd'hui ce podcast intitulé Regarde ton monde. Le titre, donc, une invitation à porter un œil nouveau sur la société qui nous entoure, un regard plus jeune sur les thématiques qui nous concernent aujourd'hui, sur nos combats. Nos grands-parents ont vécu dans ce que l'on pourrait appeler l'ancien monde, et je parle là du XXe siècle. Nos parents se sont rendus compte qu'il fallait agir, et nous, génération du début du XXIe siècle, nous devons réparer. Je pense bien sûr là au climat et à l'état dans lequel vous laissez notre planète, mais aussi à la condition des femmes, de la communauté LGBTQI+, de ceux qui dorment dehors, de ceux qui doivent quitter leur pays et que l'on accueille de la pire manière qu'ils soient. Nous évoquerons aussi ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont assez cons pour vouloir reproduire les erreurs du passé, et plus généralement nous, humains, qui roulons bien au-delà des 80 km/h réglementaires sur la sinueuse route de notre existence. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'à force de multiplier les sorties de route, on va réellement terminer dans le mur. Première émission donc, premier sujet en matière de notre combat, de notre affaire du siècle. Une jeune se mobilise, nous on l'adore, les responsables majeurs de nos problèmes écologiques actuels la détestent. Elle est attaquée sur tout et rien par des minables à la maturité d'un enfant de CE1 et encore, elle se sacrifie pour tenter de porter notre parole et tenter de sauver notre maison et notre génération. Je vous promets qu'on restera quand même objectif pour parler d'elle. Elle s'appelle Greta Thunberg et pour tout ce qu'elle fait, je voudrais sincèrement lui dire merci. Autour de la table alors pour cette première émission, il y a tout d'abord Henri qui sera aux commandes de sa première cinéma sur le film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Romane qui sera aux commandes de sa chronique musique, on parle aujourd'hui de l'artiste Pomme. Et enfin Valentine nous accompagne et on y va. Eh bien, vous ne le savez pas parce que vous ne nous avez encore jamais entendu, mais chaque émission démarrera par une rubrique qui s'appelle le quiz, et on parle donc de la thématique de l'émission. Aujourd'hui, c'est donc Greta Thunberg, vous l'avez compris dans l'édito, c'est parti, je commence. Ma première question, quelle est l'année de naissance de Greta Thunberg ?
2003.
2002.
C'était 2003, bien joué Roman. Ah. De quel pays est-elle originaire ?
Suède. Suède.
Oui, non, c'est qui l'a dit ?
C'est moi.
C'est là où il fabrique les meubles. Comment est-elle venue jusqu'à New York?
Comment est-elle en venue bateau, en voilier. Voilier?
Plus précisément, est-elle venue à New York
pour Amérique.
Prononcer son discours à la tribune de l'ONU. Comment est-elle venue?
Oui, bien oui, bah en voilier écologique.
Oui, en voilier zéro déchet. C'est un voilier spécial, hein. Il a été conçu pour être zéro déchet. Et donc, voilà. Pourquoi ce trajet a-t-il fait polémique?
Elle a dû être long.
Merci Roman.
Mais du coup,
personne n'a eu l'idée. Ce trajet a pas mal fait polémique hein, sur les réseaux sociaux et sur les personnes qui détestent Greta Thunberg. Est-ce que vous avez une idée de
ça? Se sont dit oh là là, elle rate.
Parce qu'elle a pas fait le retour pareil.
Elle fait un voyage.
Ah. Alors exactement, déjà elle n'a pas fait le retour pareil. En fait, ce trajet il est avant tout symbolique. Le trajet retour pour ramener le bateau à bon port a été effectué par une autre équipe, mais qui s'est rendue à New York en avion.
En avion. C'est un échec.
Voilà, et c'est le fait, en fait, c'est le fait que Greta Thunberg ait agi pour le symbole et non pas pour la planète lors de ce voyage que la polémique a été créée. Attention, question suivante. Lors du sommet à l'ONU, elle croise Donald Trump, le président américain. Quelle a été sa réaction?
Alors là,
ça aussi, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Non.
Okay.
Vous pouvez peut-être imaginer une réaction qu'elle aurait pu avoir.
De l'énervement. Non.
Elle savait pas qui c'était. C'est qui ce Simpson réalité?
Non, en fait, elle est d'abord écartée par les services de sécurité pour laisser passer Donald Trump. Elle est mise à l'écart dans le hall d'entrée. Et quand il passe, elle jette un regard haineux noir au président américain. Et avant de quitter la pièce, sans jamais le recroiser, mais ce regard noir, il a été filmé par beaucoup de caméras et il a beaucoup tourné. L'image est quand même assez sympa à voir. On parle maintenant donc de son discours à l'ONU, c'est pourquoi elle est venue à New York. Que dit-elle lors de son discours? Réponse A, vous avez volé mon enfance et mes rêves avec vos paroles vides de sens. Et réponse B, vous allez me voler mon avenir avec vos paroles vides de sens.
C'est la A.
La A, oui, tout à fait. Je la répète, vous avez volé mon enfance et mes rêves avec vos paroles vides de sens. Complétez cette phrase de Greta Thunberg. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est...
L'argent.
Ouais, d'argent. Oh, ouais. Et celui qui aura la suite de la phrase aura ma reconnaissance éternelle.
Alors là.
Ou fin du mois pour les 3 prochaines minutes.
Je sais pas.
La suite de la phrase, vous l'avez pas, mais on va l'écouter. C'est parti.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth.
Et comme on a deux bilingues autour de la table, je vais en profiter. Valentine, Roman, est-ce que vous avez une idée de ce que...
Ah, et moi, bah moi oui. Tu m'écartes, genre...
Fairy tale, bah oui, les contes de fées, et après, elle a dit quoi?
Alors là, il faudrait
réécouter.
Non. Alors en fait, ce qu'elle dit, c'est nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, du conte de fées, d'une croissance éternelle. Question suivante. Greta est suédoise. Selon vous, quel est le jour du dépassement de son pays?
Je crois qu'il est, tardif.
Ouais, la Suède, ça va, je crois.
C'est la Suède et la...
La Norvège, c'est le plus développé.
Ah bon?
C'est celui qui, je pense, qui va le plus tard.
Ah oui.
Mais la Suède doit être assez tardive aussi.
La Suède.
Ouais, octobre-novembre, peut-être.
Novembre. Genre le 3 novembre.
Bah, c'est ce que j'avais dit aussi.
D'accord. Eh ben écoutez, je dois vous avouer que vous êtes un peu nul. C'était le 3 avril en 2019. Oh, c'est très
tôt. Le 3 avril.
En 2019, le jour du dépassement de son pays était le 3 avril. Selon vous, est-ce que ce jour donc du dépassement de la Suisse, qui était le 3 avril en 2019, il intervient...
La Suède.
J'ai dit la Suisse.
Oui.
D'accord, pardon.
Donc, on suit.
Selon vous, ce jour du dépassement de la Suède, qui est le 3 avril, est-ce qu'il intervient avant ou après le jour du dépassement mondial?
C'est avant.
Avant, ouais.
Oui, c'est avant. Et du coup, quel est le jour du dépassement mondial?
C'était en mai, là.
Ah bon,
c'était
en mai, il me
semble. En 2017.
Ah oui, cette année.
C'était super.
C'était pas 5 mai?
C'était un peu plus tard, quand même.
En juin?
Un peu plus tard
juillet.
Encore. En juillet.
Ah voilà, je l'avais dit juillet.
C'était fin juillet en 2019.
Mais c'était peut-être en France que c'était plus tôt alors.
Ouais.
Ah oui,
ouais,
c'est ça.
C'est en France qu'il était en
mai. C'était pas Jean-Michel Blanquer, c'était le ministre de l'écologie.
À l'époque, ça devait être celui qui aimait pas trop le homard. Celui qui était allergique au homard, ouais.
Oui, voilà.
Oula.
Ah, peut-être pas, il a peut-être déjà changé.
De Rugy, c'est ça.
De Rugy, ouais. Le homard, je n'aime pas ça. Allez, question suivante. On va y aller donc. Quel Français est allé jusqu'à inscrire dans la description de son compte Twitter, je le cite, anti-Greta Thunberg?
Un rappeur.
Non.
C'est un fond... Nicolas Sarkozy.
Non, c'est quelqu'un qui
un
a fondé.
Non
plus, c'est quelqu'un qui a fondé quelque chose, un programme que vous connaissez tous.
Scratch.
Comme j'aime.
Alors, non, enfin.
On peut savoir de quoi c'est le programme
nom.
Ou
il faut son nom.
Oh.
Bon, je vous donne deux propositions. Petit 1, est-ce Bernard Canetti, le fondateur du régime alimentaire Comme J'aime, qui vous promet de vous faire perdre du poids à vous comme à votre porte-monnaie? Ou est-ce Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo, ce site qui vous annonce qu'il vous reste 3 heures à vivre alors que vous avez une simple gastro?
Je pense que c'est Doctissimo, la proposition.
Laurent Alexandre, donc. Donc vous pensez que c'est Laurent Alexandre? Eh ben, vous avez raison, il a également taclé Greta Thunberg dans de nombreux tweets. Pour lui, pas besoin de taper ses symptômes dans Doctissimo, on sait déjà qu'il est con. Vrai ou faux, Greta Thunberg a prononcé cette phrase. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant vous leur volez leur futur devant leurs yeux.
Moi je dirais vrai.
Henri?
Ouais, c'est vrai.
Et Valentine?
Ouais, également.
Eh ben, c'est vrai, on l'écoute.
You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes.
Voilà, bon, bah, c'est la preuve que c'était vrai, les bilingues ont pu
le
vérifier. Le même type de question, vrai ou faux, Greta Thunberg a prononcé cette phrase. Pensez-vous à nous qui allons devoir sacrifier notre avenir à cause de vous qui n'avez rien fait?
Oui, je crois aussi.
Oui, ça lui ressemble.
Il me semble.
Ouais.
Eh ben non.
Ah merde. C'est faux. Mais ça ouais.
C'était inventé par.
C'est une phrase de ton invention.
Oui, c'est ça vient de mon cerveau. On continue avec lui j'avais hâte de le dire. On continue avec Nicolas Sarkozy. Que dit-il au sujet de Greta Thunberg?
Qu'elle a un problème de faciès.
Non, pas exactement. Mais il y a quelque chose.
Je sais pas.
Attention.
Il se moque en disant oui notre cher et tendre ami.
Il y a quelque chose comme ça, oui. Alors, petit A, dira-t-il qu'elle est si jeune, si directe, si agressive, ou petit B, si souriante, si sympathique, si originale?
C'est la B.
Exactement. Alors, on va l'écouter d'abord, Monsieur Sarkozy.
Cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante. Tellement originale dans sa pensée.
C'est vrai, il se marre beaucoup hein, autour, hein, on s'amuse. Alors, monsieur Sarkozy, Greta Thunberg, vous le savez, est victime du syndrome d'Asperger, qui n'est autre qu'une forme d'autisme, et moquer une personne en raison de son handicap est juste minable. Voilà, des bisous. On continue, quelle phrase n'a pas été prononcée au sujet de Greta Thunberg ? L'écologie est un sujet trop important pour être laissé aux mains d'une adolescente. Greta Thunberg est aussi ridicule que le combat qu'elle mène. Ou bien, elle a 16 ans, elle ferait mieux d'être à l'école.
Pas été prononcée ?
Ouais, quelle est la phrase ? Il y en a une que j'ai inventée moi, laquelle c'est ?
La dernière.
Ah ouais ? Mais j'aurais dit
elle a 16 ans, elle ferait mieux d'être à l'école.
J'aurais dit la première.
Ah bon ?
Henri dit l'écologie est un sujet trop important pour être laissé aux mains d'une adolescente. Et Valentine ? La deuxième.
Non, c'est moi la deuxième et Valentine la troisième.
Bon, en gros, tout le monde en a une différente. Alors, Henri a faux. La première citation que j'ai évoquée est de Paul Godefroy. Ça vous étonnera peut-être, mais c'est un éditorialiste du Figaro et ça date de juillet 2019. Et la troisième est de Florian Philippot, un ancien proche de Marine Le Pen, qui a aujourd'hui pris ses distances pour fonder son propre mouvement. Et il déclarait cela sur France Info en août 2019. Qui c'est qui avait dit que c'était la deuxième ? Bah, c'est Roman qui a gagné. On continue, attention, qui a déclaré cela ?
Je trouve lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Je crois que l'écologie mérite mieux.
Vous avez vu, je me suis un peu amusé à trafiquer la voix.
C'est plutôt rigolo. Gollum.
C'est ça. Alors, à votre avis, qui est-ce que c'est ? Qui est-ce ?
Franchement.
Bon, je vais vous donner des propositions.
Alors, qui part comme ça ?
Zemmour.
Je trouve ça ridicule.
Alors, je vous propose est-ce une traduction d'un discours de Donald Trump enregistré par ma voix que j'ai modifié ? Est-ce Nicolas Sarkozy ? Est-ce Michel Onfray, qui est considéré comme un grand philosophe français ? Ou est-ce Alain Finkielkraut, également considéré ?
C'est Finkielkraut.
Effectivement, c'est Alain Finkielkraut, le même qui avait déclaré que ce n'était pas comme ça qu'il avait envie de voir des femmes au sujet du football féminin.
Ouais. D'accord.
Encore un bisou à toi. On continue, on parlait de Michel Onfray tout à l'heure, que je l'ai dit, hein, il est considéré...
Il est pas vrai, Michel.
Oui, allez. Il est considéré comme un grand philosophe français. À quoi a-t-il comparé Greta Thunberg ? Allez,
un animal ou quoi ?
Non, il a comparé Greta Thunberg à... des réponses ?
Je ne sais pas.
Allez, je vous...
C'est un objet, c'est un adjectif, je vois devinette.
Non, il l'a comparé. Alors, je vais vous donner des propositions. Ouais, parmi les propositions que je vous ai données, il faut savoir que Greta Thunberg a subi les quatre de ses critiques, mais il n'y en a qu'une qui a été énoncée par Michel Onfray.
D'accord.
Alors, la première, il l'a comparé à un tyran de 16 ans, à une illuminée, à un cyborg ou à une sadique.
Cyborg. Une illuminée.
Et Henri.
Cyborg.
C'était le cyborg, oui.
Ah.
Ouais, on a des philosophes intelligents quand même en France. Hein. Alors, en quoi ce combat est très important pour nous et pour Greta Thunberg ? On continue dans la suite de l'émission. C'est tout de suite, vous écoutez Regarde ton monde. Et donc... En quoi est-ce que ce combat est si important pour nous ? Est-ce qu'il est légitime qu'aujourd'hui les jeunes se mobilisent ? Et pourquoi une jeune pour représenter ce combat, selon vous ?
Tu peux répéter la question ?
En quoi ce combat, est-ce qu'il est si important pour nous ? Est-ce que c'est légitime de notre part de nous mobiliser ? Et pourquoi est-ce qu'on a choisi une jeune et pas une personne de 80 ans pour nous représenter dans ce combat ?
Personne de 80 ans, elle meurt dans pas longtemps.
Merci.
Il n'y a rien de mieux que les jeunes pour représenter les jeunes. Hein.
Et puis la génération qui arrive, quoi.
C'est la génération qui a baigné dans ça, qui est née dans les problèmes. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour comprendre et utiliser les bons mots pour nous représenter.
Pourquoi c'est notre génération qui a baigné là-dedans, justement ?
Ben, parce que c'est là qu'on a vu l'émergence de tous ces problèmes, qu'on a commencé à prendre conscience.
Bah, l'émergence ça fait des années que
les problèmes viennent d'avant, et maintenant ça arrive vraiment dans un... Ça, c'est vraiment un sujet d'aujourd'hui dont on parle beaucoup, et même si les politiques en parlaient peut-être un peu avant, mais maintenant ça devient vraiment un vrai problème.
Henri, est-ce que tu penses que c'est légitime, enfin, est-ce que tu trouves ça déjà normal que ce soit... une ado qui soit aux commandes de ça ?
Bah alors, moi je trouve que qui de mieux que les jeunes pour représenter les jeunes, hein. Surtout que bah, c'est principalement notre génération qui va être impactée et les générations futures qui vont être impactées par le désastre écologique. Et donc, c'est important que si les adultes ne prennent pas conscience et ne font pas quelque chose pour à tout prix améliorer le dérèglement climatique, bah, si on n'est pas entendu, il faut que ça vienne de nous.
Et en quoi est-ce que tu penses que Greta, enfin, est-ce que vous pensez que Greta Thunberg, elle est légitime pour nous représenter à tous?
Bah du moins, elle a le mérite de s'être prononcée toute seule. Alors, ouais. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est représentative de toutes les classes sociales? Non, je ne crois pas. Mais au moins, elle a le mérite d'avoir fait quelque chose. Quoi.
Et puis les revendications, les convictions sont tout à fait légitimes. Donc.
Et il n'y a pas que les il n'y a qu'à lire les rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Donc le climat est étudié par le GIEC depuis les années 90 et ça étudie surtout les impacts des activités des humains sur la planète. Et ce GIEC donc nous alerte en continu sur des phénomènes qui arrivent sur la planète par notre faute. Les prédictions font assez peur. La montée des océans et des mers, la hausse des températures à cause de l'effet de serre, et cela montre aussi un énorme impact sur la qualité de l'air, les déplacements de la population, la production, qu'elle soit alimentaire ou d'objets, enfin, c'est assez dramatique. En bref, l'impact de tous les problèmes est assez inquiétant, surtout pour nous, toute la jeune génération qui est en train d'arriver. Alors, Greta Thunberg, on l'a vu, hein, elle est très critiquée, mais elle est aussi adorée. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment beaucoup ce qu'elle représente. Je sais pas, vous... Alors, vous pouvez avoir une opinion nuancée, on reviendra sur... Enfin, vous aurez l'occasion de faire vos philosophes français et de la critiquer un peu plus tard, mais globalement, vous en pensez quoi? Si vous deviez en dire du bien, qu'est-ce que vous diriez sur elle?
Je pense qu'elle a du cran, déjà, de le faire, de... Comme tu l'as dit un jour, de nous porter parole, que c'est pas nous qui quittons l'école, mais c'est oui. Elle qui l'a fait pour nous.
C'est ça.
Et donc ça, c'est une grande force, quand même, pour notre génération, et ça, c'est bien, déjà.
Alors, j'ai fait quelque chose... Vraiment, je m'en veux, j'ai lu le Figaro, elle est qualifiée dans le Figaro, d'égérie, et plus généralement de symbole dans tous les médias ou sur Internet. Si vous cherchez Greta Thunberg symbole, j'ai fait l'expérience donc avec ces trois mots-clés sur Google, on trouve essentiellement des articles de presse, que ce soit de la presse écrite ou de la presse radio, Le Monde, La Croix, Ouest France, Europe 1, RTL, France Inter, Paris Match même, et il y a là seulement la première page de résultats Google, donc en fait... tous ces médias qui la considèrent comme un symbole. Ce qui l'a amené à cette popularité aussi, c'est la grève qu'elle a entamée tous les vendredis à partir de août 2018. Elle se trouve toute seule devant le parlement de son pays avec une pancarte sur laquelle est inscrit « Grève scolaire pour le climat » en suédois. Et c'est autour du mois de décembre 2018 qu'elle devient réellement connue de tous avec son discours lors de la COP24 en Pologne. On en a entendu tout à l'heure un extrait dans le quiz, c'était quand elle disait vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, mais vous osez détruire leur avenir devant leurs yeux. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Je vérifierai. Son discours à l'ONU, il marque un très fort symbole du combat pour le climat. Est-ce que vous l'avez trouvé bon ou mauvais? Vous en avez pensé quoi de ce discours?
À vrai dire, je l'ai pas entendu en français. Non mais sérieusement,
vous avez tout préparé l'émission. Il y en a qui l'ont entendu. Henri, on a écouté ensemble.
Alors, dans le fond, je trouve que c'est ce qu'elle dit est tout à fait juste et tout. Après, il y a quand même sur la forme un certain cynisme et une certaine façon de parler, son éloquence justement, parce que c'est ce qu'on voit en cours actuellement, il y a quelque chose, je trouve, de totalement surjoué limite.
Oui, j'ai déjà entendu ces remarques de la part d'autres jeunes amis à moi qui la prennent presque comme modèle d'engagement et qui ont été pas déçus par ce discours, mais qui parfois étaient un peu surjoués.
Elle en fait peut-être un peu
ouais,
trop.
Voilà. Moi, j'ai voilà, elle veut marquer les esprits,
c'est ça.
Mais
c'est ce qu'on dit. Hein. On y reviendra dessus, mais c'est vrai que parfois, elle peut en faire un peu trop dans ses discours. Nous avons donc déjà entendu des extraits et évoqué ce discours dans le quiz, hein, et je vais vous en citer d'autres, des passages. Tout d'abord, vous nous avez laissé tomber, mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Les mots là, ils sont forts.
ils sont directs, ils sont pour très tous les chefs d'État réunis. Ouais.
Bah après, il faut c'est très offensif un minimum.
Ah oui, elle est. Oui. Après, je pense pas qu'elle
faut desserve dedans,
la
quoi.
Cause.
Ouais.
C'est peut-être pas sûr qu'elle en soit au point de desservir la cause en réalité.
Ouais.
Je vous en cite d'autres. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous, on ne vous pardonnera jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous acceptez qu'elle dise nous, qu'elle parle de vous, alors que, enfin, à ma connaissance, elle n'est jamais entrée en contact avec vous?
T'as quelque chose à dire?
Non.
Non, moi, je trouve ça bien. Elle représente la jeunesse et, du moins, je pense que c'est un service public qu'elle rend.
Bien.
Okay.
Et puis, voilà, pour citer un dernier passage, elle termine sa prise de parole avec ces mots, je la cite à nouveau, « Le monde se réveille et le changement arrive, que cela vous plaise ou non. Merci. » C'est fort,
c'est
quand même.
C'est sec, mais c'est... Je dirais pas c'est classe, mais c'est très fort. Enfin, c'est fort, quoi.
Il faut quand même avoir le cran de le faire à 16 ans.
Oui. Enfin, est-ce qu'elle avait quand même des grandes personnes...
On est tous de 2003, ouais. Je crois, autour de la table, comme Greta Thunberg. Est-ce que vous auriez été capable d'avoir une si bonne éloquence, de tenir aussi bien devant un public? Déjà, est-ce que vous auriez été capable d'arrêter vos études et de faire tout ça? Est-ce que vous auriez été capable d'être Greta Thunberg au total?
Elle est un peu con, ta question, quand même.
Bah oui, on n'a pas tous le même cerveau, quoi. Il y en
non,
a
mais est-ce que vous
à
7
ans, ils font autre chose
assumer...
et ils sont totalement...
Est-ce que vous auriez pu assumer un tel...
Bah, je pense que si tu t'y mets vraiment, que t'y crois à fond comme elle y croit, tu y vas, quoi.
Et puis si t'es soutenu par ta famille,
voilà,
et
voilà.
etc., évidemment
le soutien
que...
des proches. Ouais.
Si tu... c'est ta cause, que tu t'y consacres pleinement, et bah, tu vas jusqu'au bout.
Ouais.
Mmh. Ouais, puis c'est clair qu'il fallait surtout arrêter ses études aussi. Après, au début, quand elle avait commencé, elle avait dit, voilà, j'arrête pour ce combat, et il est clair que l'année prochaine, je les reprends. Je sais pas si elle les a reprises là en septembre ses études. Il y en a qui savent, j'ai pas regardé si elle avait repris ses études à la rentrée 2019.
Bah,
je sais que pour l'année scolaire 2018-2019, elle avait fait une parenthèse scolaire pour se consacrer à sa cause et à la prévention. Mais je sais pas si finalement elle a repris au vu de du gain de popularité qu'elle a eu entre le moment où elle a pris cette décision et la rentrée de 2019. On continue. Greta Thunberg, du coup, n'en fait-elle pas un peu trop? On y a en partie répondu. Mais ne vaudrait-il pas mieux d'une écologie souriante? On entend beaucoup ces termes dans les bouches de nos politiques. Est-ce que, à l'écouter, on n'a pas l'impression qu'on est un peu tous foutus, quoi?
Si. Clairement.
Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que ça dessert pas un peu la cause de nous faire peur sur ces sujets, même si c'est des sujets qui font peur et qui sont alarmants? J'ai cité tout à l'heure les rapports du GIEC. Mais est-ce que vous seriez pas dans la vie, enfin vous seriez pas de la vie plutôt qu'il faut entrer dans une écologie souriante comme nos politiques l'inventent?
Ben certes, c'est un peu pessimiste ce qu'elle dit, mais il faut alarmer, comme tu l'as dit, il faut marquer le coup. Et c'est après quand on mène des initiatives qu'on a le droit d'être plus optimiste, mais là on se doit de marquer profondément et limite de choquer.
Nous savons que certains trouvent qu'elle en fait trop, d'autres adhèrent totalement à sa manière d'écrire et de prononcer ses discours. Je voulais juste moi vous faire part de cette réaction de Bernard Pivot, un ancien animateur télé, qui présentait une émission de dictée. Voilà, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Une émission de dictée, c'est-à-dire?
Sur France 3, il présentait une émission de dictée.
Bon, c'est pas... les gens faisaient des dictées.
Voilà, c'est
dans
ça.
La maison,
et les gens pouvaient s'entraîner derrière la télé. Notre cher Bernard Pivot, enfin cher
Bref.
Bernard Pivot, quand on va voir ce qu'il a dit. Alors je le cite, hein, « Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. » Alors au-delà, attendez, outre le caractère parfaitement sexiste d'un homme de l'ancienne génération, ses propos reflètent un caractère coincé que l'on remarque dans ses discours, parfois surfait, selon certains.
C'est-à-dire voilà. Caractère coincé.
Ben, elle a cette tête un peu, voilà, c'est dramatique. Et,
ah, tu vois.
Non, attention, je ne m'abaisse pas à ça. Mais elle a ce regard et cette attitude méchante quand elle dit ses propos si puissants et une façon justement de ne pas sourire.
Mais ça fait partie du jeu ou du surjeu, comme on dit.
Elle est pas là pour.
Oui, voilà, elle est pas là pour être décoincée.
C'est pas bon jeu, c'est clair. Non, c'est vrai. Les politiques parlent beaucoup donc d'une écologie souriante, je venais de vous le dire. En fait, ce serait trouver un équilibre entre montrer le danger de ce qui se passe et ce qui se passera plus tard sur cette planète, mais ne pas non plus effrayer tout le monde et ne pas présenter la chose comme une fatalité, parce qu'en fait, en nous faisant peur, c'est vrai que quelque part, il y en a beaucoup qui voient ça comme quelque chose comme
et
une
fatalité. Et puis qui lâchent, quoi, ils veulent
ouais, voilà, écouter. Qui dit, bon, ben voilà, de toute façon, c'est fait, on finira tous par mourir un jour, on l'entend quand même. Même parmi les jeunes. C'est vrai, même parmi les jeunes, on l'entend beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont, les deux? On les entend se chuchoter, une référence musicale.
Tout à fait, je pense à la musique de Clarica, Rien de tel.
On finira tous entre quatre planches.
Tu te rends compte quand on va chanter dans un micro là, et que ça va finir sur Internet, moi je dis,
c'est
ça va pas
assumer
les conséquences.
Mais c'est étanche. Voilà. Donc je disais, le but c'est de ne pas effrayer tout le monde, de ne pas présenter la chose comme une fatalité, bien que certains plus pessimistes pensent que le combat est déjà perdu. Que dire des critiques à l'encontre de Greta parmi celles que l'on a évoquées dans le quiz? Laquelle est-ce que vous retenez? Je rappelle, il y avait...
J'ai tout oublié.
Je pourrais vous chanter du Angèle cette fois-ci. Non, je suis sérieusement...
Je dirais plus celle... J'ai pas retenu à proprement parler une critique. Non, pas forcément, mais plus celle qui s'attaque à son physique. Parce qu'il n'y a rien de plus illégitime et ridicule.
C'est ce que je disais en édito, la maturité d'un enfant de CE1, c'est Michel Onfray, considéré comme un philosophe français qui l'a comparé à un cyborg. Moi, j'avoue que celle qui me fait mal, elle ne touche pas que Greta Thunberg, c'est celle où il dit « l'écologie est un sujet trop sérieux pour être laissé aux mains d'une adolescente ». Alors ça, c'était l'éditorialiste du Figaro, Paul Defraud, ou Defraud, je pense pas qu'il nous écoutera un jour, mais bon, son nom a été quelque peu écorché.
On peut espérer, hein.
Sur un malentendu, s'il nous entend. Moi, c'est elle, et puis Alain Finkielkraut disait un petit peu la même chose, mais c'est cette idée de dire que les jeunes ne sont pas légitimes, alors que Valentine le disait, c'est peut-être nous les plus légitimes de gueuler, parce que c'est nous qui allons subir de plein fer tout ce qui arrive. Et on a en ce moment déjà des bandes annonces, hein, les canicules, les inondations, les tempêtes.
Après, moi, je pense qu'elle est critiquée parce qu'il y a beaucoup de paroles et qu'on ne sait pas si elle fait des actions vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des actions?
Alors, déjà, elle a quand même mis sa scolarité en
oui,
suspens.
Voilà, ça.
Rien que ça, je pense que
mais
c'est plus
des actions
pour
concrètes
la planète.
Pour
voilà,
la planète.
Voilà.
Mais le problème, c'est que les actions concrètes. Alors oui, hein, c'est quelqu'un qui, dans son quotidien, fait, enfin en tout cas dans la communication qu'elle donne, fait très attention. Après, le souci, c'est que c'est vite remis en question. L'idée du voilier zéro déchet, on a vu, c'est quelque chose de fort pour montrer qu'elle agit.
Le retour, après, le retour en avion,
le retour
c'est
avec
c'est cramé,
l'arrivée
quoi.
Des équipes en avion. Bon, voilà, elle. C'est vraiment surtout
et voilà,
qu'il
faudrait
qu'elle
je pense pour être vraiment plus comment on dit
ah je sais pas, je suis pas dans ta tête
pas universelle mais acceptée par beaucoup de monde, c'est vraiment si
elle... Ah, c'est quelqu'un de mondialement connu, c'est clair.
Oui mais voilà, justement maintenant qu'elle a la notoriété entre guillemets, si elle s'entoure des bonnes personnes assez puissantes ou je ne sais pas, capable de faire un projet qui vraiment à la longue changera quelque chose quoi, arrête de faire rire.
Bon, on c'est pas gentil. On l'a vu aux côtés de Barack Obama notamment, hein. On l'a vu serrer la main avec Barack Obama.
Mais ouais.
Ils ont discuté un petit moment dans une salle. C'est bizarre ce que on va passer à la question suivante avant de perdre.
Oui, allons-y.
J'ai terminé cet édito d'ouverture de Regarde ton monde en disant, je me cite, oui j'ai cette prétention de me citer, pour tout ce qu'elle fait, je voudrais lui dire merci. Fin de citation. Alors, si ce combat nous appartient à nous, jeunes, on espère le gagner, sinon ça va nous conduire à notre perte. Si on le gagne, on lui dira merci, ou on n'aura finalement pas eu d'effet majeur, pas d'action, ça amènera tous à notre perte. Est-ce qu'on lui dira toujours merci à Greta Thunberg? Est-ce que vous aussi, vous voulez lui dire merci?
Merci Greta! Bah oui, on lui dit merci.
J'envisage
merci
de lui couper son micro au pauvre Henri. Il n'a pas dit une chose pertinente.
Non, mais bien sûr que si, on la remercie parce que merci d'avoir pris les devants et d'avoir choisi et décidé de mettre sa scolarité en retrait. Le temps de servir une cause qui nous concerne tous.
Et les filles, vous lui dites merci, vous?
Merci. Ouais, merci également.
Un grand merci donc pour Greta Thunberg. Dit, tous les épisodes de ce combat qui n'est qu'à ses débuts, mis bout à bout, Greta Thunberg, en fait, elle ne sera probablement pas considérée comme une des hommes et des femmes qui ont le plus contribué à nous sauver, mais elle aura au moins le mérite d'avoir agi et de nous avoir fait nous lever, notamment dans les marches pour le climat, pour tenter de nous protéger. Voilà, on parlait donc de Greta Thunberg. On va démarrer la phase des chroniques en commençant tout d'abord par ma carte blanche. Jingle.
La carte blanche, Baptiste Arnaud.
Alors, le combat de Greta Thunberg dont on parle est aussi le nôtre, c'est notre affaire du siècle. Je voulais alors vous parler d'un texte de Fred Vargas, qui est une écrivaine. Ce texte a été écrit en 2008, mais il est toujours d'actualité aujourd'hui, si ce n'est pas même plus. Depuis leur rédaction, ces quelques lignes sont occasionnellement remises en lumière par les médias ou les réseaux sociaux dès que l'actualité nous rattrape et nous rappelle la gravité et la dangerosité de la situation dans laquelle nous sommes. Ce texte, il commence par ces lignes. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes, dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire, avec brio, qu'il ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Ces mots sont durs. Durs tout d'abord car ils rappellent violemment le futur auquel nous nous sommes condamnés, tout seul, avec brio, pour la citer à nouveau. L'ensemble des catastrophes qui se produisent aujourd'hui semble n'être qu'un échantillon de ce qui va nous arriver, une suite potentiellement tragique avec l'extinction de nombreuses espèces, la montée des océans, un air irrespirable, plus de forêt car on aura tout coupé, et une croûte terrestre en plastique car on ne se sera pas donné les moyens de changer la mise, car nous, humains, aurons été trop bêtes pour changer en préférant le confort et la facilité. Mais voilà que nous sommes avertis, et cela, Fred Vargas le rappelle largement. Je la cite. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. Ah, bien amusé, ça oui. Et c'est là l'ironie et la stupidité de nos gestes du quotidien qu'elle rappelle. Oui, on a fabriqué des chaussures qui clignotent. Oui, on a mangé des fraises du bout du monde. On a éclairé la nuit. C'est vrai. Et la liste qu'elle dresse est loin d'être exhaustive, puisque nous, humains, avons continué. Et moi, le premier, quand je lis ces lignes, j'ai honte. J'ai honte d'avoir demandé à mes parents de m'amener en voiture alors que c'était à seulement 5 minutes à pied. J'ai honte de boire du coca, qui plus est dans une bouteille en plastique. J'ai honte d'être allé au McDo. J'ai honte de tout et je me sens absolument illégitime de prononcer ces phrases quand je vois à quel point j'ai participé à la destruction de la planète, avec ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. J'ai honte d'avoir acheté ma dernière paire de chaussures sur internet, probablement fabriquée au bout du monde par des personnes qui vivent dans la plus grande misère. Parce que ça aussi, c'est vrai, je n'arrête pas de dire « nous, humains », mais je fais encore une fois erreur. Je vais citer Fred Vargas. Quand je dis « nous », entendons un quart de l'humanité. Tandis que le reste était à la peine. Pardon, j'ai un peu bafouillé. Oui, j'ai honte et pourtant j'ai conscience que ce que je fais est mal. Je demande en manifestant aux États et aux grandes entreprises de changer pour éviter la sixième extinction à laquelle nous courons, mais finalement je me satisfais aussi largement de pouvoir consommer. Il est clair qu'une grande partie du combat dépend des plus gros pollueurs, mais si nous voulons les stopper, c'est à nous de ne plus consommer. Et c'est là que je me demande si j'en serais vraiment capable. Pour être honnête, je ne pense pas. Réduire ma consommation, bien sûr que oui, mais assez, pour être honnête, je n'en sais rien. Ce message dont je vous parle depuis tout à l'heure, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, et vous pouvez le retrouver avec la voix de Charlotte Gainsbourg. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. C'est un passage où l'auteur nous rappelle et nous expose les conséquences de tout ce que nous avons fait.
La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi.
Et il y a énormément à faire. Nous n'avons plus vraiment le choix, comme elle le rappelle, elle qui termine son texte par ses mots d'espoir, je la cite, « À ce prix, peut-être nous danserons encore ». Et de l'espoir, il va nous en falloir. Hein. Bien sûr que ce message fait peur, il nous donne envie de fuir, mais non, on est bloqué sur cette planète. Je vous l'accorde, ma phrase a fait un peu film de science-fiction. On ne doit pas lâcher, et ce qui nous arrive, finalement, n'est pas une fatalité, faisons une écologie souriante, comme on le disait tout à l'heure. J'avoue que moi aussi, à écouter le message, j'ai senti que c'était un peu foutu et j'ai juste déprimé, mais ne nous enfermons pas en déprimant, justement, et faisons le maximum. On n'arrivera peut-être pas à changer totalement nos habitudes dont nous avons si honte, mais nous devons faire des efforts, tout en profitant bien sûr de notre vie, à nous, jeunes, qui n'est qu'au début, du moins, on l'espère. Voilà pour cette chronique, et on enchaîne avec la musique, c'est Roman. La chronique musique.
C'est l'instant chronique musique par Roman.
Et Roman nous parle d'une artiste. L'artiste s'appelle Pomme. C'est parti.
Eh oui, mais Pomme, c'est ça.
Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à cou.
C'était donc un extrait des gens qui rêvent, du premier album de Pomme, à peu près. C'est un album, à l'image de son artiste, assez calme et acoustique. La voix est accompagnée principalement de guitare sèche, piano et d'un peu de violoncelle qu'elle a elle-même étudié lorsqu'elle avait 8 ans. Les paroles parlent surtout de choses quotidiennes, d'amour. Elle a sorti, 2 ans après, en novembre 2019, Les Failles, donc il y a quelques jours. J'ai écouté le 2e album et à vrai dire, je ne les ai pas trouvés si différents. À part peut-être le fait que l'orchestration soit un peu plus minimaliste, incluant guitare et synthé, et que l'album complet paraisse moins solaire que le premier. Les paroles sont à peu près orientées vers les mêmes sujets que celles du premier album. Petit bémol, les refrains prennent toujours beaucoup de place, ce qui donne souvent envie de changer de morceau, et qui écourte encore un peu plus l'album qui dure en tout 35 minutes. Cependant, si vous avez besoin d'une petite demi-heure pour décompresser avec quelque chose, de doux dans les oreilles, ne vous ferez pas de coton-tige, plutôt allez écouter l'album de Pomme.
Merci Roman pour la chronique musique. Et lui, il l'attendait depuis un moment. Ça fait un moment qu'il me parle du moment où il va pouvoir lancer son jingle et commencer à parler dans le micro. C'est Henri pour la chronique cinéma.
Le 3 septembre 1960. Il
s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Mais c'est à moi que tu parles comme ça, ouais.
Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
J'adore son jingle. Je pense
il est génial.
Qu'il va écouter en boucle. Henri, donc on parle d'un film qui te tient en plus à cœur, tout comme cette chronique cinéma. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet que tu adores, ça s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Tout à fait, et ben j'y vais. Montmartre, 1973, une couleur chaleureuse, vintage, un univers merveilleux. Paris sans crotte de chien, Paris capitale de la bienveillance. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous replonger dans le fabuleux univers créé par Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur du film. Vous l'aurez compris, je parle bien du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Le 3 septembre 1973, à 18h28 minutes et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Californidés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se posait rue Saint-Vincent, à Montmartre. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, à 2 pas du Moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, au 5e étage du 28 de l'avenue Trudaine, dans le 9e arrondissement, Eugène Colère, de retour de l'enterrement de son meilleur ami Émile Maginot, en effaçait le nom de son carnet d'adresse. Toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X appartenant à M. Raphaël Poulain se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à Mme Poulain, née Amandine Fouet. 9 mois plus tard naissait Amélie Poulain.
Donc pour résumer le film en quelques mots, une certaine Amélie Poulain décide suite à un concours de circonstances de devenir une créatrice de bonheur pour les autres. Parallèlement, elle joue un jeu de trap-trap avec un garçon qu'elle ne connaît même pas, dont elle est tombée amoureuse. Donc là, vous venez d'entendre la voix narrative de André Dussolier. C'est là un choix très audacieux du réalisateur. C'est assez rare quand même d'utiliser ce genre de technique narrative à ce point pour un long métrage. Pourtant, cette voix aussi merveilleuse que l'univers du film légèrement décalé nous permet de prendre du recul sur l'immensité du monde et de s'attarder sur les petites choses poétiques de la vie quotidienne.
Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup.
Parisien, on a dit ? Vraiment ? Les Parisiens voient-ils vraiment cela ?
Bah, il me semble.
Non, moi je crois que non. Vous me direz... C'est rare quand même de voir ces choses-là.
C'est là une des magnifiques simplicités du film, arriver à rendre heureux le spectateur par une sérénité, totale, l'envie d'aider, d'être humain, de se mélanger aux autres. Cet hymne à l'humanité et au bonheur qui a fait de ce film une œuvre cinématographique qui rentrera au panthéon du cinéma français. Un extrait plein d'émotions qui stipule ce sursaut de bien-être. Il s'agit là d'une scène où l'actrice Audrey Tautou qui se donne pendant un instant à une personne non-voyante. Donc Audrey Tautou, qui grâce d'ailleurs à ce film, a été projetée sur le devant de la scène internationale.
Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop! Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierrot gourmand. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients.
Allez, goûtez mon melon.
Oh, chez Marion, ils font de la glace au calisson. On passe devant la charcuterie. 79 le jambon à l'os, 45 le travers de micelle. On arrive chez le fromager, 12,90 le picodon de l'Ardèche et 23,50 le cabicou du Poitou. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi je vous laisse ici. Au revoir.
Impossible de parler du film sans mentionner la fabuleuse musique de Jan Tiersen qui renforce l'univers merveilleux créé par le réalisateur et scénariste. Passons de la valse d'Amélie à la très célèbre comptine d'un autre été ou encore la dispute. Vous êtes à peu près sûr que si votre enfant fait du piano un jour, il apprendra une de ses musiques composant la bande originale du film. L'histoire de la musique de ce film est assez amusante puisque pour la petite anecdote, Jean-Pierre Jeunet découvre le talent de Jan Tiersen en se faisant ramener par une de ses stagiaires en voiture qui écoutait un disque du compositeur. Il a immédiatement voulu que ce soit lui qui compose la musique du film. Ce virtuose sera comme projeté, tout comme Audrey Tautou, sur le devant de la scène internationale. Impossible aussi de ne pas parler des couleurs et du découpage technique du film. Jean-Pierre Jeunet, avant d'être un grand réalisateur, eh bien c'est un grand monteur. Il aime jouer avec les couleurs, lorsqu'on lui pose la question sur le podcast, secret de tournage diffusé sur Europe 1. Oh, ça craint de citer Europe 1. Là, je vois la thèse de Baptiste qui est en train de se dire « Mon Dieu, il a cité Europe 1 dans mon émission, malheur,
c'est
malheur !»
C'est même pas vrai.
Mais bon, je dois quand même vous l'avouer, cette émission est vachement chouette. Il déclare en fait que ces couleurs rouges, oranges, vertes sont des couleurs qu'il voit lui, tout simplement parce qu'à l'époque, il portait des lunettes avec des verres teintés. Tout de même, la couleur a un rôle plus symbolique. Et là, youpi, joie, je vous informe que nous allons faire un petit peu de français ensemble.
Youpi.
Le bleu. Alors, le bleu, qu'est-ce que c'est? Le bleu, c'est une couleur froide. Bravo, félicitations. Et le bleu, c'est également symbole de tristesse et de mélancolie. Eh bien, devinez quoi?
Quoi?
Voilà. On retrouve une lumière bleue dans les scènes un peu tristes et mélancoliques. Ah là là, il est perspicace, le petit Jeunet. Plein de symboles partout. Enfin, pour faire de l'audimat et un peu de drama, parce que faut pas déconner, on est des jeunes et on est cons, et les histoires, on aime bien ça, le fabuleux destin d'Amélie Poulain sera écarté du Festival de Cannes en 2001. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! C'est Mathieu Kassovitch jouant dans le rôle qui met le feu aux poudres en assurant que le film aurait pu remporter la Palme d'Or. Cependant, le film obtiendra quand même de nombreux Césars, hein, César du meilleur film ainsi que le César du meilleur réalisateur. Malgré sa non-sélection au Festival de Cannes, ce qui reste assez surprenant, je trouve, la presse hollywoodienne saluera le savoir-faire du cinéma français, et ça, pour une fois qu'on le salue, c'est déjà une super victoire. Pour conclure, je voudrais dire, et là je vais citer notre Amélie Poulain, j'ai eu 2 crises cardiaques, et j'ai dû me faire avorter parce que j'ai pris du crack pendant que j'étais enceinte. En dehors de ça, tout va bien. Alors souvenez-vous, allez voir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et tout ira bien. Enfin mieux, en tout cas.
Alors allez le voir, ça va être compliqué parce que ça fait un petit moment qu'il n'est plus en salle à mon avis, mais oui, c'est à voir en DVD par exemple sur votre télé bien au coin du feu cet hiver.
Ou sur un site illégal de streaming.
Ça c'est toi qui vois. Ben voilà, on arrive à la fin de cette émission et de ce premier numéro de Regarde ton monde. Merci beaucoup. beaucoup d'avoir écouté ce tout premier numéro de Regarde ton monde. Merci aussi à vous de m'avoir accompagné pour cette première. J'étais très content, ces 8 mois de travail qui se sont enfin concrétisés aujourd'hui. Merci à Henri qui était à l'envoi des sons et qui a réalisé sa première chronique cinéma sur le film Amélie Poulain. Merci à Roman qui était aux commandes de sa chronique musique. Et à Valentine pour nous avoir accompagnés et parlé de Greta Thunberg.
Et merci à Baptiste Arnaud à la préparation de cette émission, à la réalisation et à la coordination.
La prochaine fois, nous parlerons des médias et de comment est-ce que nous, jeunes, voyons ces médias et abordons la question des réseaux sociaux, des fake news et tout cela. Merci beaucoup et à bientôt.